ça rime à quoi ? Ça rime à quoi aux côtés d'Hugues Jalon ? Avec ce titre, qui est à la fois peut-être très naïf et en même temps très ancré, La conquête des cœurs et des esprits, qui vient de paraître aux éditions Verticales. C'est le troisième, après Zone de combat et Le début de quelque chose, qui disait bien aussi cette entrée un peu sur la pointe des pieds, mais en même temps dans un monde plutôt guerrier. Il y a un petit côté conquête de l'espace quand on entend ce titre-là, et en même temps on sent aussi que la conquête des cœurs et des esprits, des populations dans les moments de guerre n'est pas loin. Mais dès les premiers mots, on n'est pas tout là-haut, on est bien ancré au Texas. C'est à El Lago, au milieu de l'après-guerre. Et l'on se rend compte en effet que cette après-guerre qui dure, elle est longue, puisque là c'est dans les années 60, pour ne pas dire le 21 juillet 1969.
Et bien ça c'est une vieille histoire. Donc il y avait ce point de départ sur la guerre et l'après-guerre, et puis il y avait ce personnage dont tout le monde connaît le patronyme, mais dont personne ne connaît le visage, quasiment pas, puisque lorsqu'il est mort, certains journaux ont fait des erreurs et ont publié d'autres visages d'astronautes.
C'est Armstrong,
celui
que vous ne citez pas, parce que tout le livre est bâti ainsi, sur 7 chants qui vont parler, qui vont tourner autour d'un héros ou d'un anti-héros, et à chaque fois on met du temps à comprendre, le prénom va arriver, et il faudra cheminer dans la lecture pour se rendre compte qu'il s'agit du premier homme à avoir posé le pied sur la Lune.
Pour moi, c'était important de ne pas donner son nom dès le départ. Je le donne à certains moments, je parle de Neil, etc. Simplement pour, puisque je parlais de gens, pour le coup, de quelqu'un de très connu, quelqu'un dont Ballard disait que ce serait le seul nom qu'on ne retiendrait du XXe siècle dans 10 000 ans. Donc Neil Armstrong, ça, vraiment, c'est la vedette mondiale. Il faut se souvenir que c'était des millions de gens qui l'ont vu marcher sur la Lune. Et en même temps, ce personnage dont on ne connaît pas le visage. Et je ne voulais pas, c'est pour ça que je ne donne pas son nom au départ, qu'il soit précédé de son aura. C'est-à-dire que je voulais qu'on découvre le personnage, qu'on découvre sa vie, que personne ne connaît.
Ses proches qui le regardent à la télé et qui ont le cœur qui vibre.
Oui.
Et qui ont peur pour lui.
C'est ça. Et je voulais pas que le lecteur arrive avec une image, son image d'Armstrong, qu'il n'a que sous une version en général casquée ou masquée. Alors ça, c'est une vieille histoire, Armstrong. À certains égards, ce livre, il a commencé il y a 25 ans pour moi. Il y a une époque où il n'y avait pas d'Internet. Ça, c'est un détail qui n'est pas inintéressant. J'avais entendu dire, enfin, je voyais qu'il n'y avait pas de biographie d'Armstrong. Il n'y avait pas d'autobiographie d'Armstrong. Je voyais aussi qu'Armstrong ne parlait plus de la Lune. Quand il y avait quelqu'un qui devait faire la promotion de la Lune, c'était toujours Buzz Aldrin, dans les années 70, dans les années 80, 90. Armstrong
était bien vivant.
Il était bien vivant et personne n'en parlait. Il est mort il y a quelques années. Et à cette époque, j'avais bêtement eu l'idée, enfin une vague idée de livre qui aurait été une sorte de biographie fictionnelle. Je ne savais pas très bien, c'était une idée vague. Sur la vie d'Armstrong, sur laquelle, encore une fois, il n'y avait aucun élément. Je n'avais pas d'internet, je ne pouvais rien savoir. Et donc, je l'avais écrit. J'avais écrit Armstrong. Il dirigeait, ça, j'avais lu dans un journal, il dirigeait un musée de l'espace au Texas, dans sa ville natale. Et j'avais reçu une réponse très laconique, Neil Armstrong ne donne pas d'interview. Je n'avais pas très bien compris, bon, j'ai gardé la lettre. Bon. Donc, j'ai une lettre de Neil Armstrong, comme on en dit, des millions de personnes en détiennent une. Et je m'y suis réintéressé, voilà, il y a quelques années. Et là, il y avait Internet. Et là, j'ai vu et j'ai découvert qui était Armstrong, qu'elle a été en cherchant un petit peu. Et puis une biographie était sortie, une biographie autorisée. C'est une biographie très ennuyeuse que savent faire les Américains, spécialistes de l'histoire aéronautique, où ils vous racontent en détail ce que c'est qu'un X-15, à quoi ressemble une fusée Saturne V. Enfin, vous avez des pages entières de détails technologiques sur les fusées, les propulseurs, etc. Et j'ai découvert à ce moment-là qui était Armstrong. Et ça a conforté effectivement une sorte d'intuition que j'avais, que c'était un personnage extrêmement étrange. Une sorte de, oui c'est ça, de surhomme sans visage, presque sans psychologie, une sorte de personnage invulnérable, en même temps ayant perdu sa fille, très jeune, qui avait 6 ans, d'une tumeur au cerveau. voilà, qui fait les choses. C'est une sorte de, pour moi, je le voyais comme une sorte de métaphore de la puissance.
Et donc, il fallait un champ poétique pour l'aborder ?
Voilà, et pour moi, il fallait l'épopée. C'est-à-dire qu'à certains égards, alors ça rejoignait une idée que je trouvais, enfin quelque chose que je trouvais très étrange, c'était l'histoire de la conquête spatiale. C'est-à-dire, la conquête spatiale, c'est à la fois le truc de l'après-guerre, clairement. C'est une utopie technologique absolument incroyable, c'est une aventure dont il n'y avait pas d'épopée. Norman Mailer a fait un livre, Bivouac sur la Lune, qui raconte l'histoire d'Apollo 11, mais qui est un récit ironique, un peu désabusé, c'est le moment de la guerre du Vietnam, assez critique au fond sur la conquête spatiale, mais c'est... Bon, il y a eu des films, quelques-uns, mais il y a quand même eu un film de fiction à proprement parler sur la Lune. Comme si ça avait été une épopée que l'Amérique avait vécue, qu'on avait imposée à l'Amérique à certains égards. La NASA, le gouvernement américain avait voulu, comme une sorte de grand outil de propagande, ce que ça a été, mais qui n'était pas devenu un récit populaire, et qui n'était pas, donc, n'avait jamais été finalement... raconter l'épopée. Pour moi, c'était un grand paradoxe. Je voulais essayer de comprendre pourquoi la Lune n'avait jamais fait rêver. En fait, la Lune n'a jamais fait rêver. On a essayé de faire rêver de la Lune, mais elle n'a jamais rêvé. Et pourquoi, au fond, on a envoyé ces trois gars, enfin, disons deux, à voir à l'Uni, sur un astre mort, dont on sait maintenant, en gros, que c'était pas véritablement une destination scientifiquement prioritaire. Donc on jouait à la fois sur l'imaginaire de la Lune, atterrir sur la Lune, symboliquement c'était quelque chose de très fort, mais scientifiquement ça n'avait aucun intérêt, c'est aujourd'hui comme pour Mars. Toutes les scientifiques, vous direz, les spécialistes de l'espace, vous direz, Mars, on s'en fout. Faudrait pas aller sur Mars, faudrait aller ailleurs. Simplement pour que la NASA ait de l'argent, il faut convaincre les sénateurs et les membres du Congrès que Mars est intéressant, parce que ça fait rêver les Américains. Donc la Lune c'est aussi ça, c'est une sorte de... C'est une épopée fictive, il y a quelque chose de très... à la fois... complètement fou, complètement irréel, et en même temps, dont le récit n'avait pas été fait, dont le récit n'est même peut-être pas faisable. C'est pour ça que mon texte prend la forme aussi d'une épopée négative, enfin d'une épopée un peu sombre. Il y a quelque chose de très triste dans cette histoire. Parce que c'est l'histoire de ces astronautes, qui sont complètement dépossédés d'eux-mêmes, qui à la fois sont des surhommes, et en même temps complètement dépossédés d'eux-mêmes, de leur destin. C'est l'histoire de leurs femmes, qui vivent, qui accompagnent le destin de ces hommes. C'est une histoire un peu absurde. C'est à El Lago, au milieu de l'après-guerre, dans le salon éclairé au milieu de la nuit, en short, leurs jambes dorées, assises au bord du canapé ou étendues directement sur la moquette, pieds nus, serrées les unes contre les autres. Les épouses, oui. C'est parfait. On descend, c'est lent, tout se passe comme. La voix calme, déformée, qui grésille très loin depuis des heures. Ok, 30 secondes. Dérive à droite, léger. Une sensation de roulis. Correction. Les enfants agités. Ils se lèvent, ils crient, passent, repassent devant l'écran de télévision. Ils ne tiennent pas en place. Ils renversent les verres, les cendriers qui débordent. Mais personne ne bouge. Tout est pétrifié. Lumière. Ok. 10 secondes. Ok. Personne ne fait attention. Les rideaux fermés. La cendre tiède qui s'éparpille sur la moquette. Le téléphone sonne sans cesse à l'arrière dans la cuisine. On entend quelqu'un qui répond, murmure pendant une dizaine de secondes, raccroche. On soulève de la poussière. Ok. Ça y est. Moteur coupé. Certains pensaient, on disait, que le sol ne résisterait pas au poids des hommes, des machines, qu'il s'effondrerait d'un coup, qu'une couche épaisse de poussière bouillante les aspirerait, qu'elle les engloutirait. Mais non, tout le monde attend en silence. Tout est gris, cendré. Le ciel très noir, intense, d'une intensité inconnue. La voix qui grésille, il cherche les mots pour dire ce qu'il sent sous ses pieds, ce qu'il voit autour de lui. La surface fine, neigeuse, dure par endroits, qui colle sous la semelle en couches fines, comme de la poudre de charbon de bois. Il apparaît, il est là. Il ne lâche pas tout de suite l'échelle,
longe le module, deux pas prudents, retenant le poids du sac sur son dos, un peu courbé vers l'avant, ralenti. Il avance, s'arrête, reprend sa marche hésitante, son pouls plus rapide que celui des autres. Si lointain, l'image tremble, on dirait, c'est presque, une signification, alors que l'après-guerre. À quoi ressemblerait notre avenir? La grâce, la paix du monde. Même si tout le monde sent bien, quelque chose meurt en nous. Mais quoi? Regardez, tout le monde regarde, à la télévision, assis, debout, tous massés dans un bar, un salon ou une cuisine. Alors que l'après-guerre, la guerre si loin. Alors que la victoire, un paysage de cendres. Leur langue gonflée dans leur bouche n'a pas assez de mots. Cœur battant. C'est la puissance, l'esprit de l'homme, for all mankind, comme un état de grâce, la paix du monde.
Ce premier chant, il y en aura sept, Hugues Jalon, est plutôt mystérieux, comme ces films où les caméras déambulent longuement alentour avant de nous montrer le personnage central. Pour vous, cette manière d'aborder et l'histoire et la poésie, qui est scandée de hockey, un peu comme un script qui voudrait à la fois aller vite et en même temps prendre tout son temps pour que le lecteur ait le temps de réfléchir et le temps de découvrir. C'était une manière de revivre ce moment-là, aujourd'hui, près de 45 ans après, ou bien c'était un flash d'enfance qu'il fallait rabouter?
Pour moi, c'était une question de rythme. C'est comment rendre le rythme de cette époque. J'avais envie, c'est ça dont j'avais envie. Je pense que c'est un livre sur la puissance. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est un livre sur la vitesse. C'est la vitesse des fusées. C'est la vitesse de la croissance. C'est un monde qui va de plus en plus vite. Et ça, j'avais envie de le rendre. Donc j'ai enlevé tous les points.
Et ça, pourtant, vous faites aussi de la rétention.
Et en même temps, je retiens. Voilà. Donc l'idée, c'était de travailler. C'est ça que j'avais envie de faire sur quelque chose qui, sur un truc, un rythme, une chevauchée dans l'après-guerre. J'aurais pu faire un livre de 600 pages, je pense, une sorte de grande fresque épique, un roman monde, comme on dit aujourd'hui. Ça m'intéressait pas. Je voulais quelque chose qui aille vite, qu'on le traverse.
Le livre est court.
C'est un texte court. Je voulais qu'on le traverse, que ça chevauche. C'est presque un livre, j'aimerais qu'on puisse le lire en 30 minutes. Si on veut. Et puis qu'il y a des moments de pouvoir retenir, de s'arrêter. Et de reprendre tout de suite. C'était quelque chose comme ça, de travailler en contraction et en extension. De la même manière que j'ai travaillé les biographies. C'est-à-dire, j'ai lu des biographies de 600 pages. Celle d'Armstrong est énorme, et je l'ai lu très vite. Et j'ai retenu ce qui m'intéressait, je prenais, pas comme ça, des petits morceaux. Je laissais tomber 10 années. Pas grave. C'est-à-dire, je sais pas chercher à reconstituer une sorte d'intégrité d'une vie, une biographie. Ça, le roman ferait ça. Effectivement, c'est en ce sens que c'est un livre qui serait plus proche de la poésie. C'est que il y a une forme d'arbitraire aussi dans la manière de travailler, dans une sorte de travailler dans une sorte à la fois de sélection, de compression. Voilà, on rassemble en la biographie d'Armstrong, elle fait 30 pages, là. Si on la met bout à bout. Et à certains moments d'étirement, d'étirer des petits endroits. Dans sa biographie, il y a des épisodes qui font 3, 4, 5 lignes.
En fait, ce sont des instants.
Et c'est des instants histoire. Que j'essaie de saisir. Et avant de reprendre la chevauchée de cette existence un peu dingue, quoi. Enfin, voilà, au service de la puissance et au service de la vitesse.
Et le rêve derrière? Le rêve américain, en l'occurrence?
Oui, il est là derrière. C'est sûr que c'est l'arrière du rêve, en fait. Je crois ce que j'ai essayé de montrer. Non pas les coulisses, je dirais plutôt l'arrière. J'ai pas l'idée du dévoilement ou de dévoiler quelque chose qu'on aurait caché, mais l'usine du rêve.
Ou un réel qui n'était pas dans la lumière.
Alors, qui était partiellement dans la lumière, parce que les épouses étaient sans cesse aussi mises en avant comme des femmes modèles, etc. Mais elles incarnent aussi la face sombre de cette histoire. L'angoisse de John Aldrin, c'est cette photo qui aurait pu être aussi une des photos de la couverture du livre qui me plaisait beaucoup, où on la voit assister, elle est saisie par un photographe de Life au moment où le module atterrit. Et là, un visage absolument, c'est vraiment une très très belle photo. cigarette à la main, où elle est à la fois. On sent la sang, immense soulagement, une joie, et en même temps une tristesse, comme si c'est pour ça que quelque chose meurt en nous. Je pense qu'il y a quelque chose qui meurt en nous quand ils arrivent sur la Lune. En fait, on déflore le rêve. La Lune, c'est le début du cinéma. C'est le premier film. Méliès, c'est sur la Lune. C'est l'incarnation du rêve, la Lune. Et on atteint la Lune, on la souille, on y pose une machine, on s'y installe pas vraiment, on est juste là, voilà, et on la conquise. Et donc il y a cette dimension fortement déceptive. Il y a quelque chose de très mélancolique dans cette histoire. C'est ça que j'ai essayé de restituer, qui est présent dans la vie d'Armstrong de manière complètement hallucinante. C'est quelqu'un qui il perd sa fille comme ça, il continue. Continue, rien ne l'arrête. Et le seul truc qui l'arrêtera, c'est d'avoir réalisé un rêve. C'est-à-dire quand il rentre, eh ben il sombre dans la dépression.
Alors que si on calcule les heures passées, ça fait un laps de temps extrêmement court, cette aventure dans sa vie.
Ah oui, c'est quelques heures. Mais en même temps, c'est toute sa vie. C'est toute sa vie à partir de l'âge de 30 ans. Jusqu'à... Et ensuite, ça lui colle à la peau. Voilà, on essaie de vendre une mèche de ses cheveux. C'est à la fois une immense vedette et en même temps que personne ne connaît. C'est vraiment un destin très, très étrange.
France Culture, ça rime à quoi ? Sophie Nolot.
Et vous, cette langue-là, Hugues Jallon, pour dire à la fois cette épopée et cette contre-épopée, cette épopée inversée, vous usez des formules américaines un peu toutes faites et du hockey qui revient aussi pour scander cette folie orchestrée. Et en même temps, on sent que le texte a besoin de ce rythme-là et que c'est peut-être la première fois pour vous que tout d'un coup, la poésie s'impose sans pour autant être nécessairement poétique.
Oui, c'est-à-dire que je restais attaché à l'idée de construire un récit. Je voulais faire un récit de l'après-guerre. Je tenais à cette idée d'épopée. Et en même temps, je voulais quelque chose d'assez minimal. Quelque chose qui se... Pour dire les choses, un ami qui m'a dit ça un jour, un ami poète, il m'a dit quand t'es poète, t'es dans la phrase. Quand t'es romancier, t'es dans la structure. Bon, mais il y a un peu cette idée-là. Je voulais quand même être dans la phrase. Dans quelque chose qui... Donc, l'idée de retourner à la ligne assez souvent, de construire quelque chose d'assez à la fois percutant, fragmentaire,
de jouer sur le souffle pour parler d'une chose sous scaphandre.
Oui, c'est ça. Alors ça, oui, effectivement, j'y avais pas pensé, mais il y a ça. Derrière, il y a je pense qu'il y a ça. Il y a la voix qui souffle. Les lectures que j'ai pu faire, sans que j'y réfléchisse véritablement, je me retrouvais moi-même dans des situations d'essoufflement. Je voulais lire le texte essoufflé. Où je retrouvais la chevauchée, quelque chose comme une course. C'est une course. Que je vous raconte encore, je sens, quand je me mets à rêver au milieu de vous, ce rêve qui me traverse, ne partez pas, ne m'abandonnez pas. J'essaie de dormir, encore habillé, couché contre le mur à côté de l'écran près de l'une des sorties de secours, la lueur blanche de la veilleuse au-dessus. Quand je me mets à rêver avec vous, au milieu de vous, quand la nuit, la tension retombe, je rêve des toutes premières sensations lorsque mes mains humides, blanche de froid, commence à trembler. Je tourne sur moi-même, malgré le vertige, les picotements sur la poitrine et dans le dos. Je grimace, la peau étirée de mon visage autour de ma bouche, lèvres séchées. La lune a disparu sous le feuillage dense et immobile au-dessus de moi quand je lève les yeux, glissant en arrière dans la pente, la terre noire détrempée, profonde, qui se dérobe, je n'ai pas bougé, seul dans le vent. Alors qui vient en rafale, qui frappe ma nuque, quand la brume se lève et vient par le bas, une sorte de bain de vapeur gelée qui m'enveloppe, me fiche d'un bloc, au milieu. J'ai très froid, je n'y vois rien. Mon visage ruisselle, de grosses gouttes s'écrasent avec bruit sur le tapis d'aiguilles mou et luisant. Je sens mes cheveux raides et gluants quand je passe la main qui prend le parfum sucré de la brillantine. L'air s'agite autour,
Le vent tourne sans cesse, des bourrasques qui viennent sans prévenir, qui font bourdonner mes oreilles longtemps, pendant que le bout de mes doigts accroche douloureusement l'écorce. Je sens, l'abdomen s'attire à l'intérieur. Par réflexe, je vérifie. Des ecchymoses, palpation rapide d'une main sous un pan de ma chemise. Je ne suis pas blessé, pas de sang. Je m'éponge le front, je ne sais pas. Je monte tout droit, en aveugle, je ne sais pas. Je ressens la fatigue, mais j'essaie d'avancer, de forcer, sans crier. À mon pas, je viens d'apercevoir les lumières au fond de la vallée, comme une agitation qui monte. Je monte à couvert sous les feuilles, quelques mètres encore, péniblement jusqu'à l'arbre suivant. Je ne peux pas aller plus loin. Respiration coupée nette, de la salive déborde au coin de mes lèvres. Chaque geste, chacun de mes pas est une douleur. Arrête, attends, ferme les yeux, écoute, compte les secondes dans ta tête, retrouve les notes d'une mélodie enfouie. Il serait l'heure d'aller danser, mais j'entends. Ça bouge. Là, des bruissements. Le sol craque au-dessus, là-haut, il y a du mouvement dans les feuilles. Je ne vois rien. Je ne vois rien à cause de cette blancheur partout qui coule dans mes yeux. La pente si raide, mes pieds trempés glissent, ils s'enfoncent dans la boue sombre. Mes genoux tremblent, ils ne me portent plus. Mais il y a quelque chose. À 10, 20 mètres, tout près, je sens là, il y a quelque chose, il fait tellement sombre. Je sens là-haut, droit devant, pas encore une forme qui descend vers moi. Alors que... accroupi, arrêté, je sens venir comme de la panique martelant mes tempes quand mon cœur tremble dans ma poitrine, se soulevant à peine à chacune de mes inspirations. Maintenant accroupi au pied de l'arbre qui me dissimule assez, je crois, mes mains engourdies empoignent le haut des énormes racines noueuses gonflées d'eau. Ça se rapproche. J'entends, des pas se sont arrêtés, aucun souffle, des frémissements de matière, comme un tintement de perles qui glissent et s'entrechoquent sous le vent.
Ce moment-là de la conquête des cœurs et des esprits, Hugues Jalon, qui est la toute fin du dernier chant, ce moment où le jeu, tout d'un coup, l'emporte sur le récit historique, c'était une forme de reconquête pour vous ?
C'était plutôt une manière, je pense, de me sentir alors reconquis.
Par quoi ? Par le rêve ?
Oui.
Par la grandeur de ces moments-là ?
Je pense que quelque chose comme un rêve qui ne serait plus un rêve historique... mais un rêve érotique, un rêve amoureux. Je le vois maintenant plus comme ça. Quelque chose comme un, voilà, ce personnage, ce jeu, un peu perdu dans une forêt, qui tend la main, qu'on arrache au sol, qu'une femme, qui le monte, qui lui dit à la fin, viens maintenant, maintenant tu peux venir. Je pense qu'au fond, c'était une manière de... c'est ça, d'introduire... oui. La fin, pour moi, c'est une scène érotique.
D'où Véronica Lake en amont ?
Oui, mais tout en amont, et Ayn Rand est une... quelque chose de... un érotisme fou, agressif, un rapport... il y a une folie de ses amours, de son amour... que je trouve complètement effrayant. Mais au fond, il y a très peu d'amour dans ce que je décris dans la première partie. Je trouve qu'il y en a très peu. Il y a très peu d'amour entre Janet Armstrong et Neil Armstrong. Peu de souvenirs, tous leurs souvenirs brûlent. Il y a quelque chose de... c'est quelque chose de très mélancolique de plus en plus dans la vie de Ron Hubbard, parce que c'est un des personnages que je...
Le scientologue.
Le scientologue, c'est un personnage étonnant. Il y a finalement assez peu d'amour dans la vie de Ted Serios aussi, que j'évoque, et de ce garçon, ce monsieur, qui arrivait à produire sur des polaroïdes des photographies de son cerveau.
Ce qui transparaît aussi dans cette conquête des cœurs et des esprits, parallèlement à toutes ces images, c'est la pauvreté des mots aussi qui vont avec tout cela. Au tout début du chant 7, ça commence ainsi. N'oubliez pas que vos discours devront être très courts, leur dit le président, de très bonne humeur, presque hilar. Tout le monde sourit merveilleusement, leurs dents brillent devant la nuée de photographes. N'essayez pas d'inventer, ne cherchez pas, non. Utilisez des mots simples, comme beau ou fantastique, ce serait parfait. C'est terrible.
Là, c'est terrible, c'est avéré, c'est Nixon qui leur dit ça. Aux astronautes là, qui arrivent, qui sont dans leur petite boîte de décontamination en quarantaine. Comme s'il n'y avait pas de mots, et qu'à partir de là, on ne pouvait tellement pas le décrire qu'il faut juste pas prendre de risques pour... Et puis voilà, c'est ces hommes qui, maintenant, ils ont fait la Lune. Ils reviennent de la Lune et on leur demande de vendre la Lune, de la porter, de l'incarner. Et voilà, il va falloir qu'ils trouvent les mots pour ça. Et ça va avec, effectivement, une sorte de...
Comme les caissons.
De paupérisation, quoi.
D'enfermement.
Ouais, c'est ça, exactement. Ils sont enfermés là-dedans.
Et vous aviez en tête cette expression quasi proverbiale de la conquête des cœurs et des esprits, parce qu'on peut arriver assez naïvement au début en pensant à une chose comme ça très transcendée et belle, et de découvrir à la fin que le revers est infiniment plus retors. Et ce titre-là, il a partie liée avec la guerre, fatalement, et avec l'endoctrinement.
Oui, ça va pas de soi quand on le découvre, mais effectivement, c'est le motif principal de ce qu'on a appelé la guerre anti-insurrectionnelle ou la contre-guérilla. Et qui aujourd'hui s'est imposé dans le langage militaire le plus courant, c'est-à-dire cette idée qu'on ne fait plus tellement la guerre seulement avec les armes, avec de l'artillerie, avec des bombardements, des choses comme ça, mais que ce qui est central pour remporter le combat contre les guérillas, c'est de conquérir les cœurs et les esprits. Ça se dit WAM, comme le groupe de rock en anglais, Winning Hearts and Minds. C'était utilisé par Johnson pendant la guerre du Vietnam. C'était une expression qui était très, très courante, qui a été inventée par les Français en même temps. Il y a un truc étonnant, c'est-à-dire que dans les années 60, il y a un colonel français, parce que tout ça est une histoire assez compliquée, c'est une histoire française, un colonel qui s'appelle le colonel Lacheroy, qui fait une conférence d'un grand théoricien de la guerre contre-insurrectionnelle. Donc c'est vraiment un militaire, le mec qui a fait la guerre d'Algérie, c'est vraiment... qui raconte à 2000 officiers rassemblés dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Il y a même eu un papier dans Le Monde à l'époque, c'est un événement. Et il fait un discours fou. Et il dit, je le cite presque, il dit que c'est une guerre nouvelle dans ses conceptions, nouvelle dans ses réalisations. C'est de la psychologie que dépend la victoire, disait le colonel Lawrence. Il y a les énergies, les volontés, la masse est à prendre. Il s'agit d'une guerre qui mobilise tout ce qui pense, tout ce qui vit, tout ce qui respire, qui prend les âmes et les corps. Celle des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, qui soulèvent toute leur puissance d'enthousiasme, toute leur puissance d'amour. C'est-à-dire qu'on a un colonel de l'armée française qui fait un exposé doctrinal sur la guerre psychologique et qui se met à parler d'amour. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc fou, c'est-à-dire que cette idée qu'on va intégrer l'élément amoureux, dans la guerre. Et ce qui renvoie à plein de choses, en fait, dans l'imaginaire littéraire. On pense aux liaisons dangereuses, alors la guerre. C'est-à-dire que ça permet de reprendre, finalement, de réfléchir à nouveau frais, ou d'éprouver les liens qu'il peut y avoir entre cette guerre qu'on cherche, enfin, que je cherche, dans l'après-guerre, et le sentiment amoureux.
40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Take shadow.
La conquête des cœurs et des esprits de Hugues Jallon est publiée aux éditions Vertical. Sari Makwa, 24h sur 24 sur franceculture.fr pour réécouter durant 1000 jours et nuits et télécharger librement le temps d'une année entière. Sari Makwa, Jean-Richard Dufour, Michel Mestre, Henri Leblanc, Patrick Molinier, Sophie Nolo.
Hippity hoppity, hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da 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 da. Hippity hopping along.
Changement de décor dès 20h30 sur France Culture. Place au théâtre avec Joël Gaillot.